Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Dans cet épisode, comme promis, nous allons continuer à parcourir l'histoire du fluff et du lore du monde des rats et de Conquest, donc du jeu Conquest Parabellum. Et pour ce faire, rien de tel que le père Liénard pour vous raconter la petite histoire. Bonsoir Liénard.
Bonsoir, salut tout le monde.
Alors, comme le premier et dernier épisode qui est sorti date d'il y a quelques temps, déjà Liane, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui avait été dit vite fait, un previously quoi, comme dans un épisode de Dragon Ball Z ou de Saint Seiya, et teaser ce qui se passe avant d'entamer dans la suite.
Eh bien, précédemment, nous avions vu la genèse du monde, hein, avec création et destruction, qui avait donné, suite à leur combat, naissance aux quatre cavaliers, sous-entendu de l'Apocalypse. Ces cavaliers qui s'étaient affrontés. Ceux qui avaient amené près d'eux les dragons, les entités magiques, cosmiques, qui étaient faites d'énergie de destruction et d'énergie de création. Au terme de cette grande bataille, trois des cavaliers avaient été emprisonnés sur le troisième dieu majeur qui était apparu, Équilibre, qui est également la planète sur laquelle se passe Conquest. Et le dernier cavalier de l'Apocalypse, Conquête, avait été brisé par les dragons et répandu à la surface de la planète pour pouvoir la défendre en tout temps, sans risquer de causer un déséquilibre des puissances par sa présence. Suite à ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les dragons vont s'intéresser à ce qui est né sur la planète, la vie. Et cela va entraîner quelques complications.
Eh bien, c'est parti. Nous t'écoutons.
Très bien.
Petite verveine, la couette, c'est parti.
Précisément. Alors, les dragons, suite à leur victoire lors de la guerre avec les cavaliers, les dragons se sont tournés vers la planète, la divinité Équilibre, qu'ils ont renommé dans leur langage Ea. C'est pour ça qu'on parle du monde d'Ea pour le monde de Conquest. Et ils ont été très intrigués par ces petites choses qui bougeaient à la surface, des insectes, des petits lézards, ce genre de trucs. Et ils ont décidé d'aller voir ça de plus près. Le problème, c'est que ce sont des entités cosmiques, les dragons. Puissance assez incroyable. Et ils étaient habitués aux étendues infinies de l'espace et pas vraiment à observer la vie microscopique. Pour se faciliter la tâche, certains d'entre eux ont commencé à se créer un corps non plus féerico-magique, mais physique. Fait de terre, de vent, d'eau et de feu. Les quatre éléments primordiaux. Ils ont donc acquis une apparence qui était proche des créatures qui vivaient à la surface de la planète à ce moment-là, des lézards. Sauf qu'ils étaient beaucoup plus massifs. Hein. Les dragons dont on parle là, ce sont les dragons les plus anciens de l'histoire de Conquest, et ils font la taille de petites montagnes. Il y en a quelques-uns, au début, 2-3, qui ont joué le jeu, qui se sont transformés, qui ont commencé à s'éparpiller tranquillement sur la planète. Et quand leurs camarades ont vu que ça marchait bien pour eux, ils ont décidé de les imiter. Il n'y a que 2 dragons qui sont restés dans l'espace, au cas où il y aurait une menace qui dérangerait l'équilibre des forces, pour pouvoir intervenir. Ils ont sacrifié la joie de vivre parmi la vie, si on peut dire, pour la sécurité. Mais petite nuance quand même, hein, quand je parle de forme physique, à ce moment-là, les dragons sont encore plutôt un mélange entre du physique et de la magie. On parlerait de dragons qui seraient faits quasiment que de flammes, ou des dragons de lumière, etc. Ils ne sont pas encore aussi physiques qu'ils vont le devenir au fur et à mesure du temps, quand ils vont de plus en plus s'ancrer dans la planète. Là-dessus, les dragons se rendent également compte de quelque chose. Que Lost Infernal, les serviteurs du cavalier de l'Apocalypse Guerre, entre autres, Lost Infernal, Lost Abyssal, comme on l'appelle aussi, bien qu'il ait été très très fortement affaibli, n'était pas tout à fait détruit. Et certains de ses membres existaient encore sur la planète, où ils se cachaient parmi les formes de vie primitives qui évoluaient. Au début, c'était pas un problème. Mais la transformation des dragons avait rejeté beaucoup d'énergie sur la surface de la planète. Et cette énergie avait apparemment vivifié la vie et avait permis l'évolution de formes de vie plus complexes. Des proto-humains, on pourrait dire. Voire sans doute les humains qui arriveront plus tard. Et les ces serviteurs du cavalier de l'Apocalypse, qui avaient bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à se trouver des alliés parmi ces proto-formes de vie, avaient commencé à se créer des petites civilisations, sans doute avec eux à leur tête, et les dragons, grosso modo, essayaient de les empêcher de le faire. Mais malheureusement, en général, le temps qu'ils s'en rendent compte, c'était trop tard, et la civilisation corrompue par Lost Abyssal était brûlée. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, à la surface d'Ea, on peut trouver des ruines typiquement cyclopéennes, très étranges, qui ont l'air d'avoir des milliers d'années. Eh bien, c'est des ruines qui ont été passées par le feu, et qui appartenaient à une civilisation qui vénérait Lost Abyssal. Mais là-dessus, les dragons avaient un problème. Un vrai. C'est que ils avaient beaucoup de mal à se reproduire. Ah, ils pouvaient se reproduire, en soi, hein, de manière, on va dire, tout à fait biologique. Mais quand ils faisaient ça, la créature qui en ressortait, un Drake, ne valait pas beaucoup plus qu'un animal en termes d'intelligence.
Ah, c'est des Drakes. Les Drakes, c'est les bébés dragons ou c'est leur progéniture, enfin...
C'est les bébés dragons, mais justement, il y a une nuance. Pour créer un nouveau dragon, il fallait donc avoir le rapport biologique qui donnait un œuf. Et dans cet œuf, il fallait que chacun des deux parents arrache une partie de son essence vitale pour la mettre dans l'œuf.
D'accord, et donc il y a double fécondation. Quoi.
C'est ça, et ça donnait un dragon. Un dragon qui était moins puissant que ses parents, même au niveau individuel, mais qui était plus puissant que la somme d'énergie qui avait été mise dans son œuf. Ce qui avait comme effet que les dragons, du coup, plus ils se reproduisaient, bah, plus leur progéniture était faible. Et ça, autant les premières générations de bébés dragons l'ont plutôt bien vécu, autant les générations lointaines qui étaient du coup très faibles hein, comparées à leurs parents, eh ben, elles l'ont vraiment, vraiment mal vécu. Et ça les a poussées à utiliser leur puissance primordiale pour faire de la sorcellerie et essayer de gagner par de la puissance magique ce qu'ils n'avaient pas pu acquérir par la naissance. Également, ça a développé chez les jeunes générations de dragons un très très grand appât de l'or et des richesses. Et ce qui est la raison pour laquelle, selon le cliché, les dragons adorent se coucher sur les tas d'or. Donc voilà, la situation a continué comme ça pendant plusieurs milliers d'années. Les dragons protégeaient la vie, ils détruisaient Lost Abyssal quand ils le trouvaient. Et puis globalement, ils se reproduisaient petit à petit, sans problème. Sauf que il y allait avoir un événement assez inattendu, qui allait bouleverser l'équilibre des forces. C'est l'arrivée des exilés sur Ea. Alors, les exilés, ce sont des créatures qui viennent d'une autre planète, qui ont une forme naturelle assez indéfinie, hein, parce qu'on n'a jamais vu nous que les Spires chez eux, mais qu'on pourrait rapprocher physiquement des elfes. Dans le sens où ils sont plutôt fins, agiles, pour autant qu'on le sache, ils sont immortels.
Fragiles.
Plutôt fragiles également. Mais leur présence sur Ea, elle datait pas d'hier, à vrai dire. Hein. Eux, ça faisait quelques siècles déjà qu'ils étaient là. Ils étaient arrivés par un portail de transport galactique, si on peut dire. Et ils avaient mis des petites bases d'observation, des petits cocons, un peu partout sur la planète, qui contenaient des scientifiques, des ingénieurs, des explorateurs, ce genre de choses, quoi. Et les dragons les avaient jamais vraiment captés. Il n'y en avait pas assez, c'était trop petit, ils faisaient pas de vagues. C'était possible qu'ils en aient repéré quelques-uns, mais si c'est le cas, ils n'ont jamais prêté une attention particulière à leur présence. Sauf que, ce qu'ils ignoraient, c'était qu'en même temps, les exilés, ils se battaient contre un adversaire. Un adversaire qu'on appelle l'ennemi, et dont les exilés d'ailleurs refuse catégoriquement de parler. Et cet adversaire, l'ennemi, a apparemment gagné la guerre hein, contre le peuple des exilés et les a poussés à s'enfuir de leur monde d'origine pour venir trouver refuge sur Ea. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être au hasard 100, 200 sur toute la planète et d'un coup ils sont plusieurs dizaines de milliers. C'était bah, littéralement des réfugiés, quoi, hein, des artisans, des érudits, des prêtres, ce genre de choses. Et ils essayaient de fuir la destruction de leur peuple. Et le dernier d'entre eux qui a passé le portail, c'était... Alors, on n'est pas sûr, est-ce que c'était le roi suprême des exilés? Est-ce que c'était un grand noble en particulier? On n'est pas trop sûr. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se fait appeler le souverain. Et qu'en passant le portail, il l'a détruit. Et c'est pas un accident, hein. C'est pas « bon, bah ça s'arrêtait après toi, voilà ». Non, non, non. Il l'a détruit volontairement. Il a condamné les dizaines de milliers d'exilés qui suivaient à la mort.
Ok. Et pourquoi ?
Et étonnamment, sa propre lignée à lui, hein, ses enfants, ses descendants, ses proches, ses alliés politiques, eux, ils sont tous passés sans encombre. Hein. Eux, il n'y a pas eu de problème. Hein. Ah, c'est tout le reste, par contre, qui n'est pas passé. Hein.
C'est un petit nettoyage d'opposants politiques.
Voilà, okay. Tu as le truc. Bah, en fait, il voulait juste devenir le maître incontesté. Totalement incontesté. Et du coup, il n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier le reste de son peuple pour pouvoir le devenir.
Ouais, moi, je trouve que c'est pratique.
Bon, ah, littéralement,
tout le monde est pour toi.
C'est ça. Il a littéralement dit « Je préfère régner sur des survivants et rebâtir que de devoir partager le pouvoir. »
Je l'aime bien, ce gars.
Ah, c'est... Il a un sens politique très original, hein, il faut l'admettre.
Au moins, il n'est pas emmerdé. Hein.
Un homme de pouvoir, si on peut dire. Voilà. Sauf que la population l'a pas franchement accepté. Mais à pas oser s'opposer. Les gens étaient malheureux, résignés, et ils ont littéralement courbé les chines. Les seuls qui ont vraiment commencé à s'opposer à lui, c'était la faction religieuse, qui était dirigée par, enfin qui est toujours d'ailleurs, pour autant qu'on sache, dirigée par une exilée, qui se fait appeler La Voix. La Voix avec un X, je précise.
C'est pas la voix de Secret Story, quand même.
J'espère pas, sinon elle serait beaucoup moins sérieuse, quand même.
C'est ça. Donc, La Voix, excuse-moi.
La Voix, qui lui a dit que, oui, alors c'était bien, parce que, oui, j'ai oublié le détail, mais le souverain, quand le portail a été détruit, il s'est pas pointé en disant, allez, c'est bon, j'ai plus d'opposants, allez, on va refaire la déco à mon nom. Non, non, il a fait, non, mais dans un geste... De grandeur politique, j'ai dignement accepté le sacrifice de notre peuple pour la survie de l'espèce. Oui, ce à quoi la faction religieuse lui a dit, ouais, bah, écoute,
fume.
On y croit, un, on n'y croit pas une seule seconde. Et deux, même si tu dis vrai, Ça fait 3 siècles qu'on sait qu'on va devoir partir. T'as rien organisé. Et si t'avais fait ton taf, peut-être qu'on aurait été plus nombreux à pouvoir sortir. Bon. Ça va en rester là pour le moment. Il y a des tensions. Il y avait même des grosses fractures, à vrai dire, parce que bah, il y a beaucoup des exilés qui avaient un parent qui était resté sur la planète d'avant et qui, du coup, sont pas franchement contents de devoir leur dire adieu comme ça. Mais il y a d'autres priorités. Et la faction religieuse, elle a une alchimie. Une alchimie qui est bien à elle. Alors, en anglais, c'est le life binding. En français, on pourrait le traduire par lien de vie. Qui est une alchimie qui va contrôler la matière organique pour en faire des choses, pour en faire des choses plus grandes, plus belles, pour la contrôler en quelque sorte. Mais c'est plutôt positif hein, dans l'ensemble. D'ailleurs, pour les exilés, c'était une pratique surtout religieuse, qui était plus sacrée que vraiment pratique, à vrai dire. Mais ils vont quand même s'en servir et utiliser les artisans qui sont passés avec eux pour construire des grandes tours dans lesquelles vivre ceux qui deviendront plus tard les Spires. Les Spires, en français. Et globalement, pour l'instant, ça va s'arrêter là pendant quelques années. Ils vont s'installer. Le souverain va affermir son autorité sur le peuple. Mais il y a un petit groupe qui observe en silence ces nouveaux arrivants. Ben, ce sont les dragons. Et les dragons, ils savent pas trop comment prendre les exilés, à vrai dire. Parce que les exilés, ils sont pas vraiment soumis au prisme des énergies primordiales de destruction, de création et compagnie. Ils ont l'air un peu en dehors de ça. Et du coup, les dragons se demandent, est-ce que c'est des alliés, est-ce que c'est des ennemis, est-ce qu'ils sont dangereux? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, finalement, ça commence à se tasser. Ils se disent que s'ils n'ont pas d'énergie primordiale, c'est pas vraiment une menace. Puis bon, il faut bien dire que les dragons, ils ont toujours été les apex dans le coin. Hein. C'est eux les prédateurs alpha, le haut de la chaîne alimentaire. Ils n'ont pas eu peur de l'host abyssal, c'est pas pour avoir peur de les exiler, quoi. Mais bon, ils finissent par se dire que bon bah c'est pas vraiment une menace et qu'il y a peut-être moyen d'aller discuter un peu avec eux, savoir leurs intentions et compagnie. Et là, ils vont faire quelque chose qui va avoir de grosses répercussions. Au lieu d'envoyer des dragons anciens très 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 puissants, ils craignent qu'en faisant ça, ils effraient les exilés et que les exilés réagissent de façon exagérée. Sous le coup de la panique.
Ouais, Mars attaque avec la colombe, quoi.
C'est ça. Et du coup, ils préfèrent envoyer des très jeunes dragons qui font la taille de petits éléphants, quoi. Ou voire d'éléphants, disons. Et qui, d'après eux, bah, seront plus à même de discuter sans créer trop de troubles. Et les jeunes dragons, si on en revient à ce que j'ai dit plus tôt, ils veulent maîtriser la sorcellerie pour égaler leurs parents. Et ils veulent des richesses. Mais quand ils voient l'alchimie du lien de vie, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Puissance pareille qui est capable de faire germer des tours depuis le sol et qui est là à portée de main. Et c'est un rêve qui devient réalité pour eux. Et du coup, l'ambassade de Dragon qui est envoyée à la première spire pour dialoguer, elle se passe super mal. Parce que les dragons sont beaucoup trop curieux, beaucoup trop avides, autant des richesses que de la connaissance. Mais bon, les exilés, ils sont pas vraiment satisfaits de la rencontre, quoi. Hein. Ils finissent par les renvoyer avec perte et fracas. Alors, disons, grosso modo... Ouais, des mecs comme vous, j'en veux plus dans les parages, quoi. Et du coup, les dragons se vexent et décident d'attaquer les spires. Là, c'est encore les jeunes dragons qui y vont. Hein. Ils n'ont pas forcément prévenu les vieux que ça s'était passé aussi mal.
Ce que j'ai été demandé.
Et bien, sauf que bon, les spires, il y a quand même des milliers de gars à l'intérieur, notamment des milliers de soldats. Puis bon, bah, les attaques sur les spires directement, elles sont repoussées avec une facilité presque insultante. Mais justement, le fait de repousser ces attaques, ça force les exilés à montrer leurs cartes, à montrer leurs capacités. Et ça va attiser l'envie des dragons. Et il y a de plus en plus de jeunes dragons qui vont arriver, mais qui, au lieu de s'attaquer directement aux spires, ce qui est peine perdue, vont plutôt s'attaquer aux convois, aux bases arrières, aux postes, aux avant-postes, etc. Où là, ils commencent à enregistrer des victoires. Bon. Les exilés commencent à prendre des pertes. Le souverain n'est pas très satisfait de la situation, mais il y voit un moyen d'asseoir son pouvoir une bonne fois pour toutes, en mettant tout son peuple au travail sur une guerre commune, qui en plus a le bon goût de concerner les trésors de son espèce. Alors, politiquement, c'est du petit lait, hein, c'est, il n'a même pas besoin de réfléchir politiquement.
Oui, c'est George W. Bush le 12 septembre 2001.
Exactement. Tout à fait. Et du coup, il va faire en grande pompe inaugurer la grande armée des exilés. Il va faire armer des milliers de civils, les faire seconder par tous les artisans qu'il pouvait rassembler, tous les colporteurs, tout ce qui. Toute l'intendance autour d'une armée, quoi. Ils créent des avant-postes avec plein d'armes, des arsenals. Des infirmeries, bref, ils se préparent vraiment pour occuper le terrain une bonne fois pour toutes et pour montrer aux dragons qu'il ne faut pas rigoler avec eux. Et voilà le jour béni qui arrive, et le souverain, du haut de sa tour, envoie dans un grand discours son armée à la guerre. L'armée n'arrivera jamais aux montagnes. Les gars vont se barrer. Ils vont prendre les arsenaux. Ils vont prendre le matériel de l'infirmerie, ils vont tuer leurs officiers, et ils vont prendre des bateaux, ils vont se barrer. Toute la caste des artisans, des civils, qui avaient été méprisés, dont on avait tué la famille, ils ont décidé que c'est bon, c'était trop, ils feraient pas une guerre pour leur souverain.
Oh le bâtard.
Ils se barrent. Voilà. C'est ainsi qu'a commencé la faction des silencieux. La troisième faction des exilés de Conquest, qu'on retrouvera plus tard.
Taker.
Et bah du coup, le souverain, littéralement, il a plus que ses yeux pour pleurer.
J'espère qu'il avait un pantalon marron.
Visiblement, le devant a été joué.
Tu m'étonnes.
Du coup, c'est un peu la panique.
Pour les nobles.
La grosse panique. Et la panique va pousser le souverain à faire quelque chose de désespéré. Il va forcer les prêtres à lui donner l'alchimie du lien de vie. Il va coller des ingénieurs dessus. Et ils vont en créer une version possiblement plus puissante qui va permettre de manipuler la chair organique des êtres vivants, des animaux, des exilés. La biomancie. La fameuse biomancie. Donc, pour ceux qui jouent déjà à Conquest et qui ont eu la chance ou la malchance d'affronter les Spires, ça dépend comment s'est déroulée votre partie. La biomancie, c'est la magie entre guillemets, hein, c'est pas vraiment de la magie. Une petite aparté, je ne l'ai pas dit, mais les exilés ne font pas de magie parce qu'ils ne comprennent pas la magie. Comme ils sont en dehors du paradigme qui a créé la planète et sa magie, du coup, pour eux, c'est pas compréhensible. Ils n'arrivent pas à la manipuler. Mais leur alchimie compense.
Voilà, ils ont un moyen qui compense. Voilà.
Voilà. Et du coup, bah là, le souverain va se créer une armée de drones, de clones, de monstruosités créées par la biomancie. Une nouvelle armée pour affronter les dragons. Sauf que ça, pour la faction religieuse, ça ne passe pas du tout. Il a pris leur art le plus sacré et il en a fait une parodie, une arme. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, pendant que la guerre se fait, la voix, donc la fameuse chef de la faction religieuse, va jouer le jeu. Pendant un premier temps, elle va faire genre « Oui, je soutiens, oui, pas de soucis, tout se passe. » Et discrètement, elle va aller voir les dragons. Mais pas les jeunes cette fois, elle va plutôt aller voir les dragons anciens. Ce qui d'ailleurs fait qu'elle sera une des premières exilées à les rencontrer. Et ils vont passer un accord, qui est que si elle les aide à terminer cette guerre, parce que bon, au bout d'un moment, les dragons anciens s'étaient bien rendus compte qu'il y avait un conflit quelque part, hein, ils sont pas naïfs non plus. Si elle les aide à finir cette guerre, ils donneront, les dragons, ils donneront aux exilés qui suivront la voie de grandes portions de forêt dans lesquelles ils pourront vivre. Et en échange de ça, quand même, les dragons demandent à ce que la faction religieuse, ce qu'on appellera plus tard les tisseurs, leur fasse des bijoux, des œuvres d'art. Qu'entre guillemets, il y a un partenariat commercial entre les deux, si tu veux. Et elle va accepter ses conditions. Alors, elle va lancer ses troupes à la guerre contre le souverain. Et au bout d'un moment, elle va faire genre qu'elle vient se rendre. Et puis, bah, elle va se rendre dans la spire principale, se mettre à genoux et tout. Je me rends, vous êtes le grand souverain. Façon 300 avec Xerxès. Et elle va utiliser. Alors, on ne sait pas trop ce qu'elle utilise. Peut-être un artefact, un parchemin. En tout cas, un artefact que lui ont confié les dragons. Qui va invoquer trois des plus anciens dragons existants sur la spire du souverain. Bon. Eh ben, il n'en fallait pas plus pour mener le souverain à la table des négociations.
C'était quand même beaucoup, quoi. Enfin, il n'était pas trop en position de parler, là.
Ah non, il n'était pas en position de négocier. Il est devenu soudainement extrêmement raisonnable.
Tu m'étonnes.
Bon. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion d'urgence, dirons-nous. Mais bon, à part capituler, il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. Mmh. Donc les dragons ont plus ou moins dit on retourne au statu quo, vous quittez plus vos spires. Il y aura la paix. Par contre, vous ne poursuivez pas la voie et ses acolytes, vous les laissez partir. Plus de guerre entre vous. Et les plus jeunes dragons ont sans doute fait un peu le forcing, pas que les plus jeunes d'ailleurs, ont fait le forcing pour obtenir justement la biomancie, pour l'apprendre. Et le souverain ne va pas avoir le choix que leur accorder. De toute façon, là, il n'avait plus trop le choix. Hein. La société des Spires, elle est en ruine. Hein. Il ne reste plus que les ingénieurs, les scientifiques, les marchands. Les princes marchands surtout, la noblesse, puis à part ça, il reste des clones. Voilà. C'est pas glorieux hein, pour commencer une civilisation.
Ouais, c'est clair, mais bon, ils l'ont mérité un peu.
Ah, ils l'ont totalement mérité, hein. Je suis pas en train de les plaindre. Hein. Ils auraient même mérité bien pire, je tiens à dire. Mais bon, on va laisser les spires se remettre peu à peu de cette catastrophe, et on va juste te dire que maintenant que les dragons ont la biomancie, ils ont toujours leur avidité qui les ronge et leur envie de gagner en puissance. Et cela va les amener à faire ce que personne n'avait fait jusque-là à notre connaissance, c'est-à-dire créer artificiellement une nouvelle race, les nains. Et nous verrons ça dans le prochain podcast.
Oh non, n'importe qui, on te réchauffe. D'accord. Donc, pour refaire un peu le récapit, enfin, on récapépète quand même, si j'ai bien tout compris, les Spears, tels qu'on les connaît, la faction des Spears, ils sont en miettes.
Ouais, effectivement.
Il y a d'autres, factions d'exilés qui sont quelque part sur la Terre. Et les humains, eux, ils font leur petite vie ou...
Pour l'instant, les humains, on a encore des tribus...
Des tribus indigènes.
Qui vont commencer à avoir petit à petit leur influence dans le grand jeu des nations, si on peut dire.
Mmh.
Mais ce sera pas pour tout de suite.
D'accord. Et les drones ?
Les voies drones n'existent pas encore.
D'accord, ok. Non, c'était juste pour voir, pour un peu recaler quand même par rapport à
les voies drones vont être créées très bientôt. Et les humains, pour l'instant, existent, mais sont des petites tribus, donc comme j'ai dit, qui n'ont pas beaucoup d'influence, et qui ne sont pas vus comme des menaces, ni par les spires, ni par les dragons.
D'accord. Donc, voilà. La suite au prochain épisode.
Tout à fait.
Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Lénard, pour ce magnifique épisode, qui était, ma foi, fort passionnant. J'espère que ça vous a plu. C'était Billy the Kid avec Lénard, fin de l'épisode. Vous les studios, et un gros bisou à tous. Au revoir.
Gros bisous, bonne nuit.